Bonjour à tous et bienvenue dans cette chronique boursière. Nous sommes le 29 avril 2022. Je vous l'avais dit hier que je peignais le diable sur la muraille pour tromper le marché et le forcer à remonter. Ça a fonctionné. À force de dire partout et tout le temps que c'est la merde et que l'on va jamais s'en sortir, que l'inflation va nous péter à la gueule et qu'ensuite on va plonger en récession avec des taux à 6% et une croissance en chute libre, eh bien on finit par faire peur à tout le monde et c'est là que les grands analystes et autres experts en finance et en économie arrivent pour nous dire « Ah ben bon, c'était survendu, c'était évident !» Oui, c'est fou comme c'était évident, c'est aussi fou de voir combien on est intelligent et éclairé après. La question que tout le monde se posait encore hier matin est la suivante. Le Nasdaq a-t-il vraiment cassé à la baisse? Le S&P 500 va-t-il suivre? Et est-ce que nous sommes en train de rentrer en bear market? Et où est-ce que l'on va rebondir violemment sur cette zone-là parce que nous sommes survendus et qu'historiquement, on sait quand même que l'inflation, c'est bon pour les actions et que même quand les taux montent, les indices finissent quand même par monter. Oui, bon, d'accord, je le reconnais, c'est une question à tiroir. Toujours est-il qu'hier matin, si vous aviez comme moi passé la nuit à surfer sur le net en section finance pour essayer de vous imprégner de ce qui se dit et de ce qui se pense dans le monde merveilleusement distingué et pointu de la finance mondiale, vous auriez forcément terminé votre séance de lecture à 6h30 le matin, complètement épuisé, déprimé, avec l'envie de partir vous installer sur une plage et vous lancer dans la méditation et essayer d'apprendre à être dans l'instant présent plutôt que de vous lancer dans le jeu des devinettes pour savoir si le Nasdaq serait à 10 000 dans 3 semaines ou à 17 000. Non, parce que l'hypothèse d'imaginer le voir ne rien faire n'est tout simplement pas imaginable, justement. Bref, donc hier matin, la fin du monde était largement envisageable et même plutôt recommandée, et on se demandait bien comment les chiffres nettement meilleurs que les attentes offertes par la société du cordialement détesté Mark Zuckerberg allaient pouvoir faire rebondir le marché, surtout que l'ensemble de la planète finance s'était mis d'accord pour dire que ces chiffres étaient de la merde et que même si c'était mieux que les attentes, la croissance était en berne, la pub sur internet c'était has-been, et puis en plus, plus personne n'allait sur Facebook sauf pour poster ses photos de vacances ou des vidéos de chats, ce qui ne sert strictement à rien. Et pourtant, malgré que tout le monde trouvait que les chiffres de Meta Platform étaient minables et largement surcotés par nos amis les investisseurs, le fait que la totalité du monde merveilleux de la finance était short sur Facebook, il a bien fallu couvrir les shorts. Et quand les shorts se mettent à poil, ça assure une ambiance de folie. Ce qui nous a donné un rebond assez spectaculaire sur les tech américaines afin que ce matin nous puissions lire les mêmes idiots qui nous promettait la fin du monde hier encore, nous racontait que le marché était survendu et que c'était évident que c'était survendu. Alors qu'en fait, tout ça, c'est grâce à moi qui ai tourné négatif et prudent hier. Oui, parce que tout le monde sait que quand je tourne négatif et prudent, le marché remonte, ça marche à tous les coups. Il y a aussi un autre coup sûr, c'est quand je suis en vacances. En général, c'est là que les plus gros bull market prennent forme, mais comme je ne suis plus parti en vacances depuis au moins 4 ans, ceci expliquant cela. Tout ça pour vous dire que c'est pas facile de faire des chroniques et qu'il y a des jours, je suis fasciné par cette capacité d'oubli que nous avons. Cette force de caractère qui nous permet de nous intéresser uniquement à certains détails en oubliant la big picture tout en s'autorisant le droit d'y revenir à la première occasion pour justifier le prochain sell-off. Si l'on fait donc le bilan, hier le marché a rebondi parce que Facebook a publié des chiffres meilleurs que les attentes, mais que ses résultats sont des résultats de merde pour de vrai, mais que comme le marché était survendu et que tout le monde était short Facebook, il n'y avait que ça à faire. On a même carrément mis de côté le fait que l'économie américaine s'est contractée de 1,4% alors que les experts en économie attendaient quand même une croissance de 1,1%. Je crois d'ailleurs qu'à ce sujet, je n'ai jamais autant lu de commentaires qui essayent de minimiser la gravité de l'info et de rassurer les gens en leur disant que c'était pas vraiment la faute de l'économie américaine, mais plutôt des importations qui étaient plus importantes que d'habitude et que tout va bien se passer ensuite. Mais que surtout, faut pas nous pourrir la seule journée de hausse descente de ces 3 dernières semaines avec des chiffres économiques que personne ne comprend vraiment. Ah, tout ça pour vous dire que pour être chroniqueur en ce moment, il faut être résistant. J'ai l'impression d'être sur un terrain de football américain et que je viens de me faire piétiner par la ligne de défense de l'équipe adverse et qu'au moment où je me relève, les mecs repassent dans l'autre sens et me repiétinent de nouveau. Sans compter qu'après la fabuleuse journée de rebond d'hier, à cause que le marché il était survendu et que tout le monde le savait, sauf moi, il va falloir réussir à expliquer ce qui se passe et ce qui va se passer sur Apple et Amazon, sachant que c'était pas simple pour tout le monde hier soir. et que maintenant, il va falloir en tirer les conclusions. Non, parce que hier soir, les deux monstres sacrés du Nasdaq ont tous deux utilisé toutes les excuses à la mode pour expliquer que l'avenir ne serait pas facile avec la guerre en Ukraine, la sortie de la pandémie, la Chine qui s'enfonce dans la pandémie et l'Europe qui se prépare à y entrer de nouveau, histoire que Pfizer puisse liquider les stocks de vaccins en injectant 9 doses à toute la planète, sachant que toute personne qui aura fait son schéma vaccinal de 9 doses aura droit à un iPhone gratuit et un abonnement chez Amazon Prime. Oui, j'ai un peu exagéré, je le conçois, mais c'est pas facile tous les matins, les chroniques. Avant d'aller explorer les méandres des chiffres trimestriels d'Apple et d'Amazon, on va aborder rapidement le fait que le Japon est fermé, que la Chine ne fout rien et qu'Hong Kong est en baisse parce que les futurs américains sont en baisse, parce que les deux géants de la tech américaine étaient en baisse after close. C'est un spoiler alerte, mais vous verrez, c'est pas si simple. Pour ce qui est du pétrole, le baril s'envole parce que la Chine a l'air de se déconfiner et ils vont donc reconsommer. Je rappelle que le pétrole avait baissé parce que l'on pensait que la Chine allait rester confinée pendant des siècles et des siècles. Amen. Impactant du même coup la consommation de pétrole mondial. Mais du coup, on est passé à des siècles à 3 semaines ou 3 jours, ce qui n'est pas pareil. Ce fut le premier coup de pouce à la hausse pour le baril et ensuite il y a eu l'Allemagne. L'Allemagne qui vient de déclarer qu'ils étaient d'accord de boycotter le pétrole russe. Du coup, bah, ça pave royalement la route à un boycott européen du pétrole russe. On en parlait avant les élections françaises en disant que ça n'arrangerait pas l'arrogant petit personnage de l'Élysée à cause des voix. Mais maintenant qu'il est réélu, il peut se lâcher et le litre d'essence est bientôt à 2,50 euros. Et le baril, lui, est à 105 dollars. Mais ne soyons pas complotistes, un vendredi juste avant le week-end. Deux mots sur l'or qui remonte à 1900$, poussé par un nombre ahurissant d'articles qui disent que tout le monde achète de l'or en ce moment. Mais alors que l'on m'explique pourquoi l'or ne fout rien si tout le monde en achète. Mais ça se passe comment? Tout se fait au marché noir? Je sais pas, mais il y a un truc qui joue pas. Passons à autre chose. Vous n'êtes donc pas sans ignorer qu'hier soir, Apple a publié ses chiffres du trimestre. Nous allons donc essayer de ne pas nous perdre dans les méandres du monde passionnant des bilans comptables, parce que franchement, ça n'intéresse personne. Et en plus, dans 37 heures, 12 minutes et 37 secondes, on aura tout oublié et on se demandera ce que va bien pouvoir annoncer Nvidia. Il faut savoir que l'on parle plus des chiffres trimestriels d'Apple avant qu'ils les publient qu'après. Mais trêve de circonvolution pour tourner autour du pot. Apple a publié un nouveau trimestre de délire. Et les milliards donnent le tournis, des chiffres meilleurs que les attentes, plus forts que le trimestre précédent, un carton sur les iPhones et un carton sur les iPads. En gros, encore un trimestre fantastique. Le titre a pris 5% durant la séance, puis encore 2% après la séance. Et puis, le CFO a parlé et il a dit... Les contraintes d'approvisionnement causées par les perturbations liées à Covid et les pénuries de silicium à l'échelle de l'industrie ont un impact sur notre capacité à répondre à la demande des clients pour nos produits. Il a aussi ajouté que la guerre en Ukraine était un challenge inattendu, que le Covid en Chine posait des problèmes. À partir de là, nous sommes passés d'une douce euphorie de printemps à siroter des cocktails sur une terrasse au bord de la mer qui fait flic-flic en arrivant sur la plage, à une tempête d'automne qui vous glace le sang. Le titre a reperdu 4% dans la foulée et on est passé de plutôt content à moyennement angoissé. D'ici à que l'on revienne sur le fait que les taux vont monter et la croissance va ralentir, il n'y a qu'un pas que l'on devrait franchir d'ici l'heure du déjeuner. Chez Amazon, c'était pire. Eux, ils ont annoncé leur première perte depuis 7 ans. Ils se sont littéralement fait défoncer par leur participation en Rivian et les challenges à cause du Covid, de l'Ukraine et du fait que Musk est plus riche que Bezos. Le marché attendait un gain de 8,35$ par action et Amazon est venu avec une perte de 7,56$ par action. Présenté comme ça, ça peut donner envie de se suicider avec un couteau à bord ou à se demander plutôt quel type de substance illégale et hallucinogène les analystes consomment régulièrement pour s'être ratés à ce point. Mais il y a une explication et cette explication vient des voitures électrique. Oui, parce qu'il se trouve, que Amazon a une très grosse participation dans Rivian. Je ne vous explique pas qui est Rivian. Si, je vous explique quand même qui est Rivian. Rivian est un fabricant de SUV électrique qui est venu en bourse il y a moins de 6 mois. Les premiers jours, c'était la folie, le titre est monté à 180 dollars et la market cap à 180 milliards. Comme à l'époque, ils avaient produit 600 voitures, ça faisait quand même relativement cher la voiture. Depuis les plus hauts, eh bien le titre s'est fait littéralement démonter. Donc démonter, c'est pas le terme exact. Le terme exact, c'est piétiner. Depuis les plus hauts à 180, qui avaient bien aidé les chiffres du Q3 2021 d'Amazon, à aujourd'hui, le titre a perdu 84%. Si, 84%. Amazon détient 158 millions de titres Rivian et sur le Q4 2021, ils ont annoncé un gain de près de 12 milliards sur le fabricant de voitures électriques. Depuis, ça s'est transformé en gigantesque bouillon. Sur la fin du trimestre, Rivian a été évalué à 50$. Ça tombe bien, à l'heure actuelle, le titre est à 32. En fait, Amazon est devenu un hedge fund. Tout ça pour dire que les chiffres n'étaient pas terribles, les perspectives ne le sont pas non plus, les coûts sont à la hausse, la croissance est ralentie en Chine, l'inflation et la guerre en Ukraine et Amazon est en baisse de 9% et des poussières hier soir après la clôture. Tout ça pour vous dire que quand vous avez Apple qui est en baisse parce que l'avenir n'est pas simple, qu'Amazon qui est en baisse parce que l'avenir n'est pas simple et toutes les voitures électriques n'ont pas la performance de Tesla, Intel qui a raté son trimestre mais qui s'accroche à des objectifs bien plus hauts pour le prochain trimestre mais que personne ne les écoute, et que vous avez aussi Twitter qui a annoncé des chiffres dont tout le monde se fout parce qu'ils vont se faire racheter par Musk, mais qu'ils ont quand même dit que ça faisait 3 ans qu'ils se sont gourés dans leur nombre d'abonnés, ils ont raison, autant tout balancer avant de disparaître. Et quand vous avez tout ça, vous pouvez déjà vous demander si le rebond d'hier était vraiment justifié ou si cela ne vaudrait pas la peine de tourner la veste de bullish à bearish pour la 8e fois de la semaine. Surtout quand on sait que jamais les chiffres du bearish sentiment n'avaient été aussi hauts depuis la crise des subprimes. Moment fabuleux, moment béni où le monde merveilleux de la finance s'était dit que ça pourrait être tellement cool de titriser tout et n'importe quoi pour les fourrer dans les caisses de pension. Côté chiffres du jour, il y en aura un wagon. Nous aurons en France le GDP, les dépenses du consommateur, le CPI, le PPI et même chose en Europe. Il y aura aussi le GDP en Allemagne et le COF en Suisse. Aux USA, il y aura le Michigan Consumer Confidence qui ne sert à rien, mais qu'il faut quand même regarder. Et du côté des chiffres du trimestre, il n'y aura rien après la clôture parce que c'est vendredi. Mais avant l'ouverture, nous aurons plein de monde comme Exxon, Chevron, Philips 66, ABBV, AstraZeneca, Honeywell, Lyondell, Aon et WisdomTree. Et en Europe, nous aurons BASF, Eni et Safran. Pour le moment, les futurs sont en baisse de 0,4% et c'est un moindre mal après les chiffres d'hier. Mais je crois que si l'on pouvait avoir une journée normale où il ne se passe rien, ça serait pleinement satisfaisant. Néanmoins, je crois qu'il ne faut pas rêver. De mon côté, si vous ne savez pas quoi faire aujourd'hui, demain, ce week-end ou dans les 6 mois qui viennent, je vous recommande d'aller voir l'interview du CEO de CBX Stock Exchange, que j'ai fait moi-même personnellement tout seul avec mes mots devant la caméra. CBX Stock Exchange est une pépite genevoise qui a lancé un concept révolutionnaire que je vous laisse découvrir et qui est en même temps financé par la tokenisation. Solution révolutionnaire s'il en est pour le financement des PME. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir l'interview en scrollant down. Le titre de l'article et de la vidéo, c'est « Une révolution dans le cannabis et dans le financement ». Passez un excellent vendredi et un très très bon week-end. Et moi, je vous retrouve lundi, comme d'habitude. À lundi.